Regarde, Betty, une pâquerette.
C'est un bon endroit pour nous installer.
La pâquerette est une plante très rustique formant des touffes denses. Espèce commune, cycline à calcycline, elle fleurit toute l'année, mais surtout de mars à novembre.
Aura des pâquerettes.
Toutes ces herbes folles.
Engrais. Parfaitement naturel.
On va arroser ça.
Mais non, les pâquerettes ne chantent pas, même si elles sont folles.
Aura des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Aura des pâquerettes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là aussi nombreux et nombreuses cet après-midi à la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans. Il fait très beau dehors, la météo ne joue pas en notre faveur et en plus il y a le carnaval à Pont-en-Royan. Donc ça fait concurrence de manière festive. Mais on maintient cette table ronde parce que ce sujet-là est important à traiter. Et donc c'est une table ronde qui va être animée par mes soins pour le compte de Radio Royan-Vercors, la radio associative du périmètre. Une réflexion autour du film Terreaux locaux, cultiver l'accueil et notamment autour du travail. Et pour ça, il y a pas mal d'invités qui sont... à côté de moi. On va essayer que chacune ait le temps de parole. Pour présenter son association. Cet après-midi, elle a été organisée par un collectif d'habitants, mais aussi d'associations autour du film Terreaux locaux, cultiver l'accueil. Terreaux locaux qui sera donc projeté à 17h pour découvrir cette initiative. C'est un film qui a pas mal tourné du côté de Romans, au Chalutier. Il a été projeté plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est chez nous, dans le Royan. Donc on est très heureux et heureuses de cette projection. Et peut-être on va commencer par un premier tour de table qui n'est pas ronde vous présenter en fait qui vous êtes, quelle structure vous représentez et puis après on déroulera cette thématique du travail et de l'accueil tranquillement. Peut-être on commence à ma droite.
Élise, moi je représente l'ASTIR, l'association de soutien à tous les immigrés à Romans. Je suis bénévole à l'ASTI depuis 2020 à Vienne et puis à Romans. Est-ce que je présente déjà l'association ?
Tu peux dire quelques mots. Ouais.
Alors l'association sur Romans, elle s'occupe surtout de l'aide administrative aux personnes qui sont de nationalité étrangère. On est sur de l'aide juridico-administrative par rapport aux demandes de titre de séjour, regroupement familial, réunification familiale. Ou de l'accès à la nationalité aussi, naturalisation, déclaration de nationalité, etc. On organise des manifestations aussi. La dernière en date, c'était une manifestation pour la journée contre le racisme. Il y a tous les ans la journée internationale des migrants. Et puis, de manière plus contextuelle, lors des lois qui peuvent être votées sur les sujets de migration, évidemment, là aussi, il y a des manifestations qu'on contribue, en tout cas, à organiser. Et puis, il y a évidemment des liens aussi qui seraient entre les bénévoles et puis entre les personnes accompagnées, qui fait qu'on va les accompagner sur d'autres problématiques sociales ou autres.
Et toi, Élise, tu es avocate. Et du coup, aussi, tu nous donneras, une fois qu'on aura fait ce premier tour d'horizon de toutes les structures, quelques balises juridiques aussi pour qu'on sache qu'on ait tous et toutes le même niveau de connaissance autour de cette question de l'exil. Dorine, à toi.
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Dorine, salariée de l'association Terreaux locaux. Donc Terreaux locaux, c'est un lieu d'accueil mixte à Notre-Dame-de-Lauzier, petit village d'environ 500 habitants au nord de Vinay. Nous sommes un chantier d'insertion, donc qui accueillons deux tiers de personnes qui ont eu un parcours migratoire et qui ont le statut de réfugiés ou une protection subsidiaire, et un tiers de personnes en insertion qui sont du territoire et qui ont plutôt un parcours très éloignée de l'emploi avec des difficultés sociales liées, enfin voilà, qui fait qu'il y a un accès à l'emploi qui est compliqué. Donc, pour avoir un petit peu la mesure de la capacité, donc on accueille 18 salariés en insertion. Notre équipe de salariés permanente regroupe 11 salariés, pardon, plus 2 services civiques. Et on a également surtout une cinquantaine de bénévoles qui sont très impliqués. Donc nous, nos activités en insertion se basent sur du maraîchage biologique ainsi qu'un fournil bio, donc du pain au levain. Donc voilà, les salariés sont sur ces deux activités-là. Nous avons aussi vocation à redynamiser le territoire rural, local. Donc on organise pas mal d'animations, notamment avec le marché hebdomadaire. Une fois par mois, un grand marché festif qui regroupe plusieurs producteurs locaux. Et deux fois par an, donc à Noël et début juillet, très grand marché qui accueille environ 1000 personnes chaque année avec des concerts, enfin voilà, des animations un petit peu plus grandes. C'est important quand même. Terreaux locaux, on propose surtout un accompagnement global du salarié en insertion. Alors global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on permet un apprentissage de la langue française avec des cours de français langues étrangères. On accompagne justement dans la construction du parcours professionnel. On accompagne à la levée de tous les freins sociaux, donc ça veut dire l'accès à la santé, l'accès au logement. Donc pour ça, il y a des habitants qui accueillent parfois les salariés en insertion, mais également on fait de l'intermédiation locative, c'est-à-dire que Terreaux Locaux loue des appartements qu'il sous-loue après aux salariés, et puis l'objectif c'est qu'après le salarié puisse trouver un appartement en son nom propre. Je pense que pour l'instant c'est tout, il y aura certainement plus de détails dans les questions.
Ouais, on aura le temps d'y revenir, merci Dorine. Hélène, toi tu as une double casquette.
Il se trouve que je suis aussi administratrice à Terreaux Locaux. Donc, mais là, je vais vous parler de notre association à Villers qui s'appelle Toi et Noix, qui a 11 ans maintenant. Alors, depuis 11 ans, on a accueilli une douzaine de personnes, on en accueille encore. Alors, principalement des demandeurs d'asile, c'est-à-dire en procédure qu'on accompagne sur leur dossier de demande d'asile, avec des propriétaires qui nous facilitent quand même grandement parce que c'est une association qui a des donateurs réguliers qui permettent d'assurer. Donc, on a des propriétaires qui nous louent des appartements à très bas prix, faut quand même le dire, par rapport au prix du marché d'Anvinet, par exemple. On a de l'aide là-dessus. Et puis, on a très fort lien avec Terreaux Locaux, du fait qu'on était à Vinay avant que le projet s'installe à Notre-Dame-de-Lozier. C'est vrai qu'on a eu des contacts même avant la création, puisque les créatrices étaient venues voir un petit peu ce qui se passait dans ce domaine-là sur le territoire. Et puis, des liens extrêmement forts, on en reparlera à l'occasion. C'est vrai que quand il y a un problème, entre guillemets, d'insertion ou de droit au travail avec des salariés de Terreaux Locaux, il arrive que notre association reprenne en compte pendant un temps l'aide matérielle, qui peut être une aide alimentaire, une aide au logement, une aide, etc. Voilà. Ce qu'est Toi et Noix.
Merci Hélène. Et une association qu'on connaît bien dans le Royans, c'est R. Marie et Pierre, vous représentez R. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots aussi sur ce que fait l'association?
Oui, alors R, ça veut dire accueil interculturel en Royans. Donc voilà, ceux qui sont d'ici connaissent. Donc on est né il y a 12 ans et on accueille plutôt des familles, nous. Puisque, loin des centres urbains, mais avec école, maternelle, primaire et collège, c'est plus facile pour une famille d'être accompagnée que pour des jeunes adultes. Donc notre principe, c'est qu'on loue, nous, l'association, un appartement ADAH, à l'office HLM de la Drôme. et que voilà, dans lequel on accueille une famille et on aide la famille à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau juridique, c'est un accueil inconditionnel, donc voilà, il y a des familles qui ont rien quand elles arrivent, et donc on les aide pour le logement, mais aussi dans l'accompagnement juridique, aussi dans l'accompagnement pour la santé, dans l'accompagnement pour la scolarité, enfin voilà, dans tous les domaines de la vie, puisque les gens qui arrivent sont vraiment très très perdus. Tu veux continuer, Pierre?
Ouais, peut-être l'origine, de quel pays viennent les familles que vous accueillez?
On accueille les gens qui arrivent par ici. Du coup, ça a commencé avec une famille d'Albanie. On a eu une autre famille du Kosovo. Après, une autre famille d'Albanie. C'est tombé comme ça. Après, une famille d'Arménie. Et en ce moment, c'est une famille d'Angola. Et on accompagne par ailleurs d'autres personnes qui sont déjà dans le Royan et qui ont des problèmes au niveau juridique. Donc là, on ne prend pas en charge le logement, etc. Mais on accompagne une famille comme ça du Sénégal, quelqu'un franco-marocain, etc. Et puis aussi par le passé, quand il y a eu un CAO à Saint-Hilaire-du-Rosier, ça vous dit quelque chose, le centre d'accueil et d'orientation qu'il y a eu à Saint-Hilaire il y a quelques années, qui a accueilli en grande majorité des jeunes soudanais. Et ben, on a un peu pris le relais quand le CAO a fermé, quand il y avait eu des parrainages, donc il y a eu pas mal de gens de l'association qui avaient parrainé des jeunes soudanais. Et puis il y en a qui n'ont pas eu tout de suite ou qui ont mis beaucoup de temps à avoir leur statut de réfugié. Et donc R les a accueillis à ce moment-là, mais plutôt chez l'habitant. Et à nouveau aujourd'hui, depuis quelques mois, R s'est lancé dans l'accueil de jeunes mineurs isolés. Et alors là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on c'est pas un appartement qu'on a, mais c'est vraiment chez l'habitant. Et il y a 6 familles du Royan qui accueillent chez elles à tour de rôle. Alors il y a eu un premier jeune mineur et puis il a été reconnu isolé. Donc maintenant il est pris en charge par l'ASE et là il y a un deuxième mineur qu'on accueille.
Il y a aussi un élément important dans l'association, c'est les commissions. On fonctionne par commission. Donc il y a des commissions famille, une commission juridique, et puis il y a aussi une commission sensibilisation qui est importante parce que l'idée, c'est aussi de parler de tous ces sujets qui sont un peu manipulés ou un peu ignorés parce que c'est quand même des sujets compliqués. Et le fait de travailler avec les collégiens ou avec les écoles ou avec les médiathèques, c'est important. Le fait de travailler avec Radio Royan, bien sûr. Le fait de travailler avec le centre social qui gère un cours de français, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, avoir des liens avec les mairies, le député, le président de la Comcom, c'est vraiment un tissage de liens permanents sur le territoire qui nous ont beaucoup été utiles quand on a des cas concrets à présenter et des familles à faire, et en particulier les familles ukrainiennes. Donc parce que on n'a pas parlé, mais il y a eu beaucoup 3 familles ukrainiennes qui sont arrivées, qu'on accompagne au niveau administratif, qui sont logés par les mairies. Et puis, j'allais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié.
Ça te reviendra peut-être. Merci pour R. Et cette question de l'ancrage dans le tissu partenarial, cette question aussi de la sensibilisation, j'imagine que chacune de vos structures ont des choses à dire là-dessus, donc on va y revenir, parce que c'est important, cette question de la sensibilisation et de faire, comme cet après-midi, en fait, faire connaître ces réalités et les faire entendre au plus grand nombre. Et d'ailleurs, cette table ronde sera sur le site de RadioRoyan.fr, sur les plateformes aussi de podcast, et donc on pourra diffuser aussi pour tous les gens qui ont préféré aller au carnaval cet après-midi. Chloé, toi, tu viens de Dieu le Fit et de l'association Passerelle.
Oui, tout à fait. Je représente l'association Passerelle. On est une asso qui est née en 2019 dans le but d'accueillir des personnes exilées. Et quelques années plus tard, on est en train d'aboutir dans le sens où on ouvre, dans quelques temps, on va ouvrir une maison d'accueil pour personnes exilées en accueil inconditionnel. Et cette maison, elle s'appelle la Maison Lucette, du nom de la dame qui y a vécu, la dernière dame qui y a vécu. Pour pouvoir en arriver là, il y a eu un long chemin. Et une des choses très importantes qui a été faite pour pouvoir aboutir, c'est qu'on a créé une coopérative immobilière qui s'appelle la COP Lucette. Et c'est cette coopérative qui nous a permis d'acheter la maison l'été dernier. Et là, maintenant, on vient cette semaine d'entamer les travaux. La première entreprise est arrivée lundi sur une partie de la toiture. Et donc, cette coopérative immobilière, c'était l'idée de... Ben déjà de pouvoir acheter un bien à Diolfi, donc vous imaginez les prix, sachant que c'est pas une petite maison, c'est une très grande maison et qu'en plus on va l'agrandir. La coopérative immobilière, c'était vraiment l'objet qu'on a trouvé pour emmener avec nous énormément de gens qui ont pris des parts sociales à la coopérative. Donc c'était vraiment transformer un projet social, un projet associatif en un projet coopératif. La part sociale coûte 100 euros, on peut en prendre une ou tout plein. Ça n'est pas du don, c'est vraiment on met son argent temporairement dans une coopérative pour permettre de réaliser un projet. Certaines personnes vont vouloir récupérer leur argent, d'autres non. Quoi qu'il en soit, si ces personnes veulent récupérer leur argent, la coopérative a 5 ans pour leur rendre. Donc c'est là qu'on comprend qu'on est vraiment dans un projet patient et solidaire. Aujourd'hui, il y a 580 personnes qui ont pris départ à la COP Lucette. On a levé 480 000 euros. Il en reste encore 200 à lever, 220 000. Et on entame la dernière partie de la campagne. On souhaite avoir atteint les 700 000 avant la fin de l'année. Voilà, donc Passerelle, évidemment, ce projet est notre projet phare. Il nous demande beaucoup d'énergie et il nous porte aussi beaucoup, puisqu'avoir tous ces gens qui sont derrière nous en tant que sociétaires, c'est une énorme énergie. Après, on continue aussi les autres actions de l'association, c'est-à-dire héberger une famille, donner des cours de français langue seconde, donner des infos comme les autres assos juridiques, administratives, aux gens qui en ont besoin sur le territoire. Mais on fait aussi tout un boulot d'information sur les questions migratoires avec le festival qu'on porte, qui s'appelle Les Murs ne servent à rien, et dont on fêtera les 10 ans en septembre, dans l'idée d'amener des contenus patients, calmes, au long cours, sourcés, documentés sur les questions migratoires, pour contrer la boue qui nous est servie chaque jour.
Et on peut les applaudir, on peut les applaudir. Eh ben, je crois que ce premier tour d'horizon nous donne déjà plein de matière pour, enfin, en tout cas, moi, ça m'éveille plein de questions aussi sur, justement, enfin, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Chloé, sur la question de la sensibilisation et sur, effectivement, le nécessaire, besoin encore d'informer, de lutter contre les préjugés, de tout le temps, puisque en face, il y a un rouleau compresseur informationnel et médiatique, on peut dire nauséabond. Du coup, il y a du travail à faire là-dessus et chacune de vos associations travaille à sa manière à cet endroit. On voit que vous n'avez pas choisi les mêmes angles d'attaque, enfin autant que ce soit la question d'un festival ou de l'accueil, d'avoir une maison ou le soutien juridique, mais qu'il y a un dénominateur dans tout ça qui est la question de l'accueil. Il y a 3 autres associations que j'aimerais nommer qui sont pas là autour de la table, mais qu'on a en tête et qui ont été invitées, mais qui sont pas là. Il y a A4. Qui est l'association d'accueil en agriculture et artisanat, qui est une association qui est nationale. Il y a une grosse antenne à Grenoble. A4 Grenoble est très actif. Et on entendra un extrait à un moment de leur d'une autre table ronde où ils étaient invités l'année dernière dans les rencontres décoloniales rurales à Oust, où ils ont pu présenter des choses. Donc à un moment, on écoutera ça. Il y a aussi Voix Libre, qui a un projet assez proche de Passerelle, qui ont récupéré une maison qui s'appelle la maison d'Elisa, et non pas de Lucette cette fois. La maison d'Elisa, c'est intéressant parce que c'est aussi plus ancien dans le temps, et donc la maison tourne avec plusieurs...
C'est intéressant parce qu'ils ont aussi dû finir par l'acheter.
C'est ça.
Donc, ils sont aussi passés dans ce processus de levée de fonds, et maintenant ils sont propriétaires de la maison Elisa. C'est vraiment un projet, effectivement, c'est un peu notre projet frère ou sœur, avec l'accueil de un peu le même type de public, et on les connaît très bien, et c'est à Vercheny.
C'est à Vercheny, c'est vraiment près de Saillant. C'est l'association Voix Libre. Voix Libre Drôme, qui est à l'origine de ça. Et effectivement, pareil, on écoutera un petit extrait à un moment de leur travail, parce que bon, c'est important de les faire exister. Ils ont été invités, mais ils sont pas là. Et la dernière association, c'était le Sablier, ou plutôt la Clé des Sables, la ferme collective, qui n'est pas là aussi aujourd'hui, à Saint-Lathier. Donc de l'autre côté de l'Isère, avec une réalité de territoire aussi proche d'ici, mais avec d'autres enjeux. Et eux, ils ont embauché quelqu'un. Il me semble que c'est via A4 qu'ils ont travaillé ça. Mais peut-être d'autres personnes dans le public ont plus d'informations que moi. Et peut-être vous en donnerez après. Voilà pour ces associations qui ont été invitées, mais ne sont pas là. Et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, on aurait besoin d'avoir un socle commun au niveau juridique. Et je me tourne vers toi, Élise, parce que toi, tu es avocate et en plus, tu œuvres à la STIR. J'imagine que pour les personnes qui arrivent, mais comme nous tous et nous toutes, les questions juridiques et administratives sont un espèce de millefeuille et de méandre dans lesquels on peut se perdre et devenir un peu fou. Est-ce que tu nous donnerais quelques repères, et notamment sur cette question du travail, comment on peut faire travailler des personnes étrangères, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, voilà, est-ce que tu auras envie de nous dire sur cette question ?
Oui, alors... Je peux faire en effet un gros panorama parce qu'en effet, la complexité, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le droit du travail pour les personnes étrangères. En fait, il y a des personnes qui peuvent être placées exactement dans les mêmes schémas de vie, dans les mêmes situations familiales et qui, pour autant, vont rencontrer des problématiques extrêmement différentes vis-à-vis de l'emploi sur le plan juridique. Il y a des personnes qui disposent de titres de séjour et qui peuvent travailler directement. Il y a des personnes pour lesquelles le travail est la condition même de détention de leur titre de séjour, qui vont devoir demander à leur employeur de détenir une autorisation pour pouvoir les recruter, qui vont devoir présenter un contrat de travail à chaque renouvellement de titre de séjour. Il y a des personnes qu'on accueille qui n'ont pas de papier, pas de titre de séjour, et pour qui le seul moyen d'être régularisé va pour autant être d'avoir des fiches de paye, quand bien même l'employeur n'est pas autorisé à les recruter si jamais il connaît leur situation d'irrégularité sur le territoire français. Voilà, on a tout un tas en fait de situations différentes en la matière, et je trouve que c'est très 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 complexe de résumer en quelques mots ces situations-là. On a voilà des personnes qui après ont des cartes de résident et qui pour le coup ont moins de difficultés pour l'accès strictement juridique, hein, parce qu'après c'est évidemment des personnes qui sont aussi confrontées à des discriminations, à du racisme, pour lesquelles il y a aussi d'autres problématiques qui sont pas que administratives qui vont s'ajouter. Et puis en parallèle, il y a des difficultés au-delà même du droit. Pour moi, dans le respect du droit par la préfecture même, et c'est ce qu'on voit par exemple beaucoup en Isère, avec des titres qui sont parfois jamais renouvelés, donc des ruptures de droit aussi, des titres qui arrivent à expiration, des difficultés dans le renouvellement des récépissés, donc qui vont faire que les salariés vont pas pouvoir poursuivre les contrats de travail. Et donc ça, c'est pour moi un troisième problème, quoi, au-delà de la complexité juridique, au-delà des phénomènes systémiques de racisme. Il y a aussi ce souci-là en matière de droit des étrangers qui est que, à mon sens, dans certaines préfectures, le droit des étrangers n'est même pas appliqué, en fait, et l'administration commet des illégalités vraiment manifestes. Donc, c'est voilà, assez compliqué.
Est-ce que ça vous donne envie de réagir, et puis aussi peut-être des exemples, parce que là, en t'écoutant, Élise, moi j'ai eu des exemples qui sont plutôt liés à la préfecture de Valence et de la Drôme. Là, toi, tu parlais plus de l'Isère. Effectivement, de rupture de droit, de renouvellement qui se font pas, enfin des choses assez qu'on comprend même pas quand on va nous chercher les réponses. Alors, il y avait Pierre, et puis après Hélène. Pierre pour R.
Un élément qui est important et qui n'a pas été cité, peut-être c'est le fait que tout passe maintenant par le numérique. C'est-à-dire qu'il faut passer par la plateforme qu'appelle NEF, et cette plateforme, on sait qu'elle dysfonctionne. Donc vous êtes obligé de rentrer par la plateforme, mais cette plateforme ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais un rendez-vous à la préfecture, parce que tout passe par le numérique, mais il vous manque un papier, mais vous n'êtes pas au courant. La nef n'a pas enregistré votre extrait de naissance, elle vous le redemande. Enfin, on a des espèces de systèmes comme ça qui sont tellement bien huilés qu'on se demande comment. Enfin, je voudrais pas être méchant, mais j'ai l'impression que ça a été quand même fabriqué. Oui, c'est pas volontaire. Bon, d'accord, c'est pas volontaire.
Non, comment ça pourrait ne pas être volontaire ?
Voilà, c'est ça. C'est bien. Oui. Et ça veut dire que pour les gens, encore nous, bon, on accompagne les gens. Quand on sent, quand la préfecture sait qu'elle est accompagnée, les personnes sont mieux reçues. Ça, c'est aussi ce qu'on constate. Et quand la personne est toute seule dans la rue ou sans droit, on se demande comment mécaniquement elle peut faire pour entrer dans le dispositif. Et comme en plus le dispositif dysfonctionne, eh ben, on tourne en rond. On a mis en procès la préfecture, on a gagné le procès, mais ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et au final, la décision du tribunal n'a pas été appliquée par la préfecture.
Quand tu dis on, c'est R. R a mis en...
R à l'époque.
R a mis en procès la préfecture de Valence.
Oui, parce qu'il ne donnait pas la carte qu'ils étaient obligés de donner.
Ouais. Et aussi, alors il y a des choses pour compléter, c'est aussi des timbres fiscaux qui coûtent 225 € à chaque fois. Qu'une fois qu'ils ont... Enfin, moi, j'ai accompagné une famille, donc je vois le dossier se perd, il faut repayer 225 €. Et 225 €, on sait ce que ça représente, déjà dans l'absolu, mais aussi pour des personnes qui n'ont aucun moyen de subsistance. Donc il y a aussi ça que je voulais souligner. Et effectivement, comment ne pas perdre espoir et la question de l'impact de tout ça sur la santé et notamment la santé mentale des personnes qui arrivent dans ce dédale de mauvaise foi et de complexité. Hélène, vous vouliez rebondir ou Dorine, ouais, pour Terro Loco.
On va pouvoir donner un exemple assez précis, effectivement, et où Terro Loco et Toi et Noi sont en collaboration. Nous avons effectivement une salariée qui avait une autorisation de travail qui n'a pas été renouvelé et donc on a dû suspendre son contrat de travail. Donc il y a eu une grosse bataille menée conjointement avec Toi et Noi, l'avocate et également notre accompagnatrice sociale pour redemander cette autorisation de travail en attendant la réponse du titre de séjour. Donc voilà, en attendant, cette personne se retrouve en incapacité de payer son logement, par exemple. Et donc, bah, c'est là que Toi et Noi intervient également en prenant en charge. Mais ça veut dire qu'on démarche aussi, par exemple, la MSA, parce que Terro Loco dépend de la MSA. Donc là, la MSA accepte de prendre, par exemple, un mois de loyer. Voilà, c'est dès qu'il y a une suspension comme ça, c'est vraiment tout un réseau qui s'active. Et c'est un vrai travail de fourmi. Je ne sais pas si Hélène, si tu veux compléter.
Et c'était au mois de février. La seule date qu'elle avait, c'était en août pour le renouvellement. Alors qu'il y avait eu des renouvellements automatiques depuis un an, 18 mois quasiment. Elle avait eu 3 renouvellements avant. Le rendez-vous était en août. Alors c'est vrai que à ce moment-là, on essaye de... les élus, hein, tout bêtement, on leur dit il faut râler. Bon, ils ne font pas des miracles, mais c'est important que nos élus sachent nos différends, et il y a quand même un collectif qui s'appelle Bouge ta préf dans l'Isère qui tient le siège devant la préfecture de temps en temps, qui essaye de, avec l'appui de la PARDAP et de l'ADA, c'est vrai que c'est une guerre, comme vous le dites. C'est une guerre alors que le droit, quelque part, n'est pas respecté.
C'est l'État qui ne respecte pas ses propres règles. On est vraiment face à ça.
Oui, c'est exactement ça.
Chloé, tu voulais rebondir ?
Peut-être une petite précision, parce que c'est pas toujours le... On a souvent l'impression, quand on parle d'association d'accueil de personnes exilées, qu'on n'accueille que des primo-arrivants, des personnes qui viennent d'arriver. C'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens, ils ont tout un parcours en Europe, dans différents pays, des papiers italiens, mais il y en a plus. Plein d'histoires très très différentes les unes des autres. Et cette histoire des dysfonctionnements des préfectures, elles ont aussi un impact sur des gens qui sont en France depuis des années. Nous, on travaillait avec un monsieur qui travaille à la CIMAD de Marseille, qui me disait encore la semaine dernière, Chloé, j'ai vu en permanence là un monsieur, ça fait 3 fois qu'il a un titre de 10 ans. Là, il a pas pu obtenir son rendez-vous à la nef, il est en train de perdre son boulot et son appart. C'est-à-dire que je sais pas si vous imaginez ce qu'on fait à des gens pour un putain de dysfonctionnement d'un site qui marche pas, quoi. On remet en cause toute une vie d'une personne. C'est complètement hallucinant, quoi.
C'est un peu délirant, un peu fou. Et il y a aussi, donc moi j'attrape un peu les leviers au fur et à mesure de ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on a comme levier ? J'entends Bouge ta préf en Isère, j'entends solliciter les élus. et voire même mettre la PREF en procès. Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette folie ?
Le défenseur des droits, mais bon, ça fait partie du panel. Après, on est quand même face aussi, je pense, les préfectures, elles font partie d'un contexte, d'une certaine façon, d'un contexte politique, d'un contexte national. Elles se sentent, j'imagine, aussi soutenues par une population qui est de plus en plus critique face à l'arrivée des personnes exilées. Donc, non, les leviers, ils sont quand même pas... Enfin, notre amie avocate pourra répondre, mais ils sont quand même pas foufou, quoi.
Élise, toi, dans ton quotidien à la STIR et dans ce que tu arrives à faire, comment tu t'y prends, en fait, concrètement? Qu'est-ce que tu vas actionner comme levier pour t'en sortir dans ce tableau un peu noir qu'on est en train de décrire?
Pas mieux que les autres. Non, pareil, on a encore un petit rempart du droit, mais là, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade de désespoir à certains moments où on gagnait des recours, mais je pense que vous en avez tous fait d'expérience, qu'on n'arrivait pas à exécuter. Et quand bien même on ressaisissait la juridiction en disant « mettez-nous des astreintes, parce que là, la préfecture n'exécute pas votre décision de justice ». Et ça, ça a pu être des situations que j'ai vues plein de fois là au cours de ces derniers mois. Donc vraiment, la situation est grave ici. Mais en effet, le contexte politique est tel que c'est sûr que les préfectures de l'Isère, ben c'est les ordres sont donnés par le ministère de l'Intérieur, quoi. Donc faut pas non plus se faire d'idées. Tout ça est tout à fait normal.
Au ras des pâquerettes.
Oh, les jolies fleurs !
L'émission qui prend de la hauteur.
Engrais parfaitement naturel.
Pierre, tu voulais compléter ?
On a un exemple très concret qui est arrivé cette semaine d'une entreprise qui avait embauché un gars, un Algérien, qui l'avait formé à des techniques très pointues au niveau informatique. Et le récépissé étant arrivé à expiration, ils ont attendu, puis il est arrivé à expiration. Il ne pouvait plus garder la personne. Et la préfecture a été condamnée par le tribunal administratif à lui donner son récépissé. Et il manquait toujours un papier. Et donc le DRH de l'entreprise s'est déplacé en préfecture, dans la Drôme, avec le salarié, pour exiger, en tant qu'employeur, d'avoir le papier, et en sortant le tribunal administratif. Donc on voit aussi que mettre les entreprises dans la boucle, ça peut être intéressant. Et quand elles interviennent, ça fait un peu tâche qu'au niveau du discours préfectoral, parce que là, on a un salarié, une entreprise, un salarié compétent, une entreprise de pointe, et... un besoin, il n'y a rien, il n'y a aucun élément possible pour dire non à cette personne, sauf à considérer que les Algériens n'ont rien à faire en France.
Et du coup, à Terreaux Locaux, comment vous contournez ça et comment vous arrivez à... Je te vois faire les gros yeux. Parce que vous embauchez des gens. Donc, comment ça se passe concrètement quand des personnes arrivent? Et donc, c'est pas forcément des primo-arrivants. Hein, c'était important de le rappeler, Chloé. Donc, des gens qui sont peut-être là depuis plus longtemps pour accéder à des... La plupart du temps, c'est des CDD. Comment ça se passe pour vous concrètement?
Alors, Terreaux Locaux, du coup, on accueille que des personnes qui que des personnes qui ont l'autorisation de travail, dans tous les cas.
Qui ont déjà passé plusieurs étapes dans ce dédale.
Par contre, l'enjeu, ça va être justement le renouvellement et la continuité de ces autorisations de travail et le renouvellement des titres de séjour. Et là, souvent, on a des cassures dans le parcours. La force aussi de Terreaux Locaux, c'est qu'on fait partie de plusieurs réseaux. Notamment donc le réseau Jardin de Cocagne, mais pour tout ce qui est lutte un petit peu, c'est le réseau Emmaüs, qui par exemple cette semaine s'est réuni à Paris pour Emmaüs en lutte, et donc voir collectivement sur tout le territoire comment on pouvait avoir une portée commune en tout cas, et des actions communes, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme action commune pour avoir une portée un petit peu plus importante que chacun sur son propre territoire. Donc je ne dis pas que ça va changer les choses, mais en tout cas on va sur la piste militante, quoi.
Oui, donc c'est vraiment la force du tissu associatif et de bien se connaître et de travailler ensemble qui va soutenir et aider, mais ça demande beaucoup d'énergie aussi des structures, ouais. Et des bénévoles.
Oui, tout à fait. Si je peux juste rajouter, c'est l'importance aussi du soutien des élus locaux. Terreaux Locaux a vraiment pu compter sur le conseil municipal. Et du fait de la participation à d'autres réseaux, il y a eu plusieurs représentants à Paris, hein, de l'État, qui sont venus découvrir Terreaux Locaux, et ça a fait un petit peu bouger les choses. Il y a aussi Terreaux Locaux qui participe il y a un événement européen. Enfin voilà, la voix a été entendue, etc. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de multiplier les petites actions comme ça de plaidoyer finalement.
Et est-ce que ça vous arrive de faire des promesses d'embauche, parce que c'est quand même une des pièces dans les dossiers qui peut compter au niveau de la préfecture. Est-ce que vous faites à Terreaux Locaux des promesses d'embauche?
Non, ça on n'a jamais eu le cas.
Et alors comment vous vous en sortez quand il y a cette fameuse pièce de promesses d'embauche d'une structure avec qui vous travaillez sur vos territoires différents, je sais pas, du côté de Dieulfi ou ici dans le Royan ou sur Romand, avec qui vous pouvez travailler pour avoir ces fameuse promesse d'embauche. Peut-être on peut rappeler aussi ce que c'est.
Mais ça, là aussi, hein, il faut bien comprendre que c'est vraiment l'aléatoire qui décide. Hein, donc, nous, on a eu la chance de pouvoir faire une, effectivement, je vais pas dire nous, parce que c'est vraiment la personne exilée qui avait un plan stratégique très clair et on l'a accompagné là-dedans. Il avait effectivement trouvé un employeur qui cherchait une personne et qui a dû, d'une part, prouver qu'elle n'avait pas trouvé une personne française pour ce poste, puisque ça, c'est la loi, la préférence nationale. Et tout s'est bien enchaîné. Et effectivement, ce monsieur a pu obtenir un titre du fait d'avoir eu un patron qui lui faisait une promesse d'embauche. Sachant que là, on n'est pas dans le cas où on doit prouver qu'on travaille déjà. On est dans le cas où on attend sur son canapé d'avoir la réponse de la préfecture, parce qu'on n'a pas le droit de travailler tant qu'on n'a pas eu le titre qui donne droit au travail. Pour ce monsieur, tout s'est bien enchaîné.
Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur cette question? Parce que j'ai eu des réactions sur cette question de préférence nationale. Peut-être c'est pas clair pour tout le monde.
En fait, un employeur qui, par exemple, cherche, je sais pas, en plus, il y a la question des métiers en tension après qui s'ajoute, mais je vais pas aller sur ça. Mais un monsieur qui cherche un pâtissier et qui rencontre un jeune malien qui est sans papier en France et qui se trouve avoir des compétences en pâtisserie, s'il veut l'embaucher, il doit prouver qu'il a depuis 3 mois une annonce de pâtissier sur France Travail et que personne ne s'est présenté. Il n'a pas pu recruter une personne française cherchant du travail en France pour pouvoir faire une demande d'autorisation de travail pour un monsieur de nature étrangère.
Ça, c'est une loi qui date de quand ?
Je sais pas.
Est-ce que toi, tu sais, Élise ?
Ça date de pas mal de temps.
Mon expérience, ça a toujours existé. Donc... je sais pas, j'ai commencé en 2016.
Ok.
Non, je ne saurais pas dire.
Le fait que quand on embauche quelqu'un d'étranger, il faut payer. Et ça coûte cher. Donc, certains employeurs disent, moi, je veux bien le prendre parce que je trouve personne d'autre. Bon, OK. Mais il faut payer, et payer cher. Et un droit qui est utilisé très beaucoup en agriculture pour faire venir les travailleurs espagnols, par exemple, à l'époque, pour ramasser les fraises. Voilà, ça rentre dans un détachement. Donc, les gens, ils viennent, mais ils sont censés repartir. Et là, ils ont adapté le système pour les réfugiés, les exilés qui n'ont pas vocation à repartir, en principe. Mais justement, c'est boiteux, quoi. Ça ne fonctionne pas très bien.
Oui, Elise.
Je vais peut-être apporter une toute petite nuance. Cette histoire d'autorisation de travail et de devoir prouver qu'on n'a pas pu recruter une personne française, ça s'applique seulement aux personnes qui détiennent des titres liés au travail. Pour toutes les personnes qui ont des titres vie privée familiale, qui sont parents d'enfants français, conjoints de ressortissants heureux, etc., ça ne s'applique pas.
Et à toi, Enoa, est-ce que Hélène, vous pouvez nous donner quelques détails aussi de comment ça se passe
Alors,
pour vous, l'embauche ?
C'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure. On suit actuellement une famille qui a une OQTF que notre cher Darmanin il a rajouté 1 ou 2 ans de plus pour représenter une demande d'asile il y a 2 ou 3 ans. Donc là, tu le disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué parce que dans la demande d'asile, il doit fournir la preuve qu'il a travaillé, mais il n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est complètement c'est effarant. Alors, on a trouvé un biais. Alors ça, c'est un peu sur les conseils de l'APARDAP et de l'ADA à Grenoble, qui suivent au niveau administratif. On a quand même trouvé une petite solution pour ces personnes, et ça fonctionne, c'est de les embaucher avec des CESU. Un employeur privé risque, je crois que c'est 20 000 euros d'amende s'il embauche quelqu'un en EQTF. Par contre, quand on est un particulier,
Alors, il y a à Lozier, par exemple, des personnes qui ont besoin de faire tailler des haies, qui ont besoin de, etc., etc., faire un peu de ménage, faire un peu... On est arrivé, et ça me paraît quand même... voilà, il n'y aura pas de poursuite là-dessus. Je viens de les aider à faire leur déclaration d'impôt, parce qu'ils reçoivent leur déclaration d'impôt. Les CESU sont bien, j'ai bien vérifié, c'est les bonnes sommes. Donc, si l'administration française leur envoie une déclaration d'impôt avec des CESU... On espère quand même que les particuliers qui ont, j'allais dire, la bonté, c'est pas ça, mais qui ont conscience qu'il vaut mieux les embaucher eux parce qu'ils ont vraiment besoin de manger, tout bêtement. On pousse pas mal à c'est du bidouillage, hein, mais ça aide.
Faut peut-être juste quand même préciser que c'est une tolérance, hein. C'est pas légal. Mais effectivement, il y a une tolérance depuis des années sur ça. Mais quand on en discute avec un avocat, il nous dit quand même, normalement, la personne privée est censée s'assurer que la personne qu'elle embauche en CESU a bien un titre de travail. Bon, voilà. Mais clairement, les gens du CESU le savent très bien que plein de personnes font ça parce que c'est aussi une paix sociale, hein. Ces personnes, il faut bien qu'elles fassent leurs courses, comme tu le dis.
Du coup, c'est de la bidouille. Le mot a été lâché. C'est de la bidouille. C'est des endroits des zones un peu grises de tolérance sur quelque chose qui pallie au dysfonctionnement plus général du droit et du respect du droit. Mais tout le monde est au courant et ça se passe.
Il y a aussi le travail au noir. On n'en parle pas, mais je pense que la restauration, le bâtiment travaux publics, par exemple, entre autres, serait bien en peine si on faisait vraiment une action contre le travail au noir. Ça fonctionne. Quand vous allez dans un restaurant à Grenoble, vous regardez un petit coup d'œil dans la cuisine, celui qui fait la vaisselle, je suis pas sûr qu'il ait les papiers. Et heureusement que ce système existe, entre guillemets, pour donner une espèce de bouée de sauvetage à des gens qui n'ont pas d'autre solution. Mais en même temps, c'est la porte ouverte à tous les abus qu'on connaît, hein, refus des droits, refus de payer les heures supplémentaires et autres, quoi. C'est un espèce de système qui permet un salariat sous-doté en droit, quoi.
Oui, et on sait, c'est ça, pas de respect des droits, des arrêts de travail, du chômage, toutes les cotisations.
Pas de fiche de paye.
Pas de fiche de paye, et du coup, pour le logement.
On en parle en ce moment.
Marie, tu veux compléter
Non, parce qu'on parlait en aparté des livreurs à vélo, et en ce moment, il y a bien tout un...
Sur Deliveroo,
voilà,
Uber...
Voilà, sur Deliveroo et Uber, quoi. Ouais.
Donc, le tableau est assez noir, mais il y a des leviers. Oui, vas-y, Marie.
Juste pour continuer, parce que tout à l'heure, on a parlé des promesses d'embauche. Et je pense que, les associations qui sont en milieu rural, et on est tous dans des environnements où on a beaucoup de relations. Et en fait, ça se passe aussi vraiment beaucoup comme ça. Et on peut avoir une promesse d'embauche parce qu'on connaît un tel et parce que... Et voilà, et je pense que, alors, en ville, il y a d'autres manières de faire, sûrement, mais nous, les réseaux et l'implantation, c'est vraiment très, très important.
J'ai envie de donner la parole aussi aux personnes concernées, parce que là, il y a que des structures qui accueillent et accompagnent. A4, eux, ils ont un positionnement qui est différent. Donc, A4, c'est l'association d'accueil en agriculture et en artisanat. On va les laisser se présenter. C'est donc un extrait qui vient d'une captation d'une table ronde qui a eu lieu donc aux rencontres décoloniales rurales à Oust-sur-Scie l'année dernière, à peu près à la même époque. C'est les gens de A4 Grenoble qui se présentent. Et je veux aussi rappeler qu'il y a un film qui présente A4 qui s'appelle D'égal à égal et qui est disponible sur Vimeo si ça vous intéresse. Et voilà, on écoute cet extrait et on pourra rebondir dessus. Et puis on ouvrira aussi sur la question des maisons, puisqu'il y a la maison de Lucette et la maison d'Elisa, et sur la question du logement qui est une question centrale aussi au milieu de tout ça.
Et vers 2020, fin 2021, 2022, l'association a été créée. Maintenant, A4, association d'accueil en agriculture et en artisanat. Et en quelque sorte, pour la présentation de l'association, c'est ce que je peux dire. Et il y a des amis qui sont là, qui peuvent dire aussi un peu, quoi. Merci.
Précisément, l'association A4 s'est créée à Paris, Saint-Denis. On a plusieurs antennes de A4. Il y a un à Grenoble, il y a un à Lannion, il y a un à Centrafrique, bientôt il y a un qui va créer à Lyon,
en
voilà,
Bretagne.
Il y a un à Rennes, voilà. Donc À la base de l'association, vraiment, c'était voilà, la personne concernée prend les choses à la main, que pas tout le temps sur les autres, et pas les autres qui disent tout le temps, faut faire ça, et voilà. À la base de l'association, c'était ça. Et puis lutter, trouver des choses à soi-même et aller vers le, là où on peut trouver des choses à faire à nous-mêmes.
Et A4 a été créé par des personnes exilées, des personnes racisées. Et au début, le slogan, c'était « Nous traversons la mer pour retrouver la terre ». Et c'est des personnes qui ont traversé la mer pour retrouver la terre de l'autre côté. Au début, ça n'a pas été facile. Ils étaient en Île-de-France, une grande agglomération, parce que souvent, la majeure partie des exilés qui viennent, et beaucoup veulent rester dans les grandes villes. Et donc, ils ont eu des problèmes pour la régularisation. Et du coup, il y a eu des idées. Certains ont travaillé avec SOS Méditerranée, avec beaucoup d'associations. Ils ont vu que ce n'était pas facile d'avoir les papiers et pour le travail, il fallait travailler dignement. Donc, ils se sont dit peut-être qu'il fallait passer par la terre parce que c'est des gens. Et au pays, ils travaillent dans la terre. C'est des gens qui connaissent la terre. Même si ici, la façon de faire l'agriculture, c'est différent, c'est développé. Voilà. Donc, d'où l'idée est venue de créer l'A4. A4, Association d'accueil en agriculture et artisanat. Et l'objectif de l'association en question, c'est de mettre en lien le milieu rural et le milieu urbain et en même temps aider les gens qui ont des papiers, que ce soit des gens qui ont le papier ou pas le papier, à poursuivre les démarches dans ces deux milieux. Et donc A4 a des antennes, comme mes amis l'ont dit, nous avons des groupes locaux. Il y a un groupe local en Île-de-France, il y a un groupe local en Agnon, il y a un groupe local à Grenoble. On va bientôt créer un groupe local aussi à Lyon.
A4, on a un slogan d'égal à égal. Voilà, tout le monde est la bienvenue en A4, personnes blanches, en tout cas toutes les personnes, en tant qu'humains, tout le monde est la bienvenue. On a pas mal de liens, de fermes, et pour trouver des formations, des stages et voir même le travail. Et on est en train même, on est en train encore, parce que c'est, des fois on rencontre des difficultés à ce niveau et on est en train de chercher encore d'autres relations, d'autres liens. Et parce qu'on a des gens qui ont envie de s'installer en agriculture et voire même travailler, parce que avec des personnes qui sont déboutées de l'asile, et ils n'auront pas d'autre moyen que par la régularisation, par le travail. Et on met des trucs en place pour créer ce réseau afin que ces personnes soient accueillies dans les conditions dignes et pour être dans les meilleures conditions, quoi. Et en fait, à la base, si nous accueillons des personnes, on essaye de les faire des petites formations d'accueil, c'est-à-dire comment s'intégrer en France, comment les choses se passent, et administrativement et le travail, comment trouver le travail. C'est-à-dire, les personnes, à la base, quand on les accueille, on leur demande d'abord leurs compétences, et on a des sous-groupes qui sont créés pour ça. On leur demande leurs compétences à la base et ce qu'ils aiment faire en France, et il y a ça aussi. En plus, quand une personne est partie et pour travailler dans un lieu, et la personne est suivie pour qu'il soit dans les meilleures conditions, quoi, d'accueil. Voilà.
Et justement sur ça, parce qu'il y a quand même beaucoup ce truc qui revient de quand des personnes ont des compétences acquises au pays, à l'arrivée en France, parfois c'est des compétences qui sont totalement invisibilisées ou ou nier, comme si ça, comme si elle n'avait pas existé avant l'arrivée en France. Comment vous faites, vous, dans l'association, pour réussir à valoriser et les, et qu'elle soit respectée aussi, ces compétences?
Pour réussir à valoriser ses compétences, c'est-à-dire, il y en a, on passe par le stage, d'abord, pour que la personne ait un aperçu sur les compétences en France. Et après, voilà, parce qu'on a pas mal d'amis qui ont eu le travail, ils ont passé d'abord par le stage. Et après, ils ont été à la hauteur et ils ont été pris. Et après, on a fait le contrat. Après, on leur donne les fiches de paye. Après, maintenant, l'accumulation de ces fiches de paye, il sera régularisé. Et c'est comme ça, quoi.
Et pour ajouter quelque chose par rapport à ça, et du coup, et nous, quand nous accueillons des nouveaux membres, et on a un groupe d'accueil. Et souvent, les gens qui viennent, on demande leurs compétences, on demande ce qu'ils ont déjà fait au pays. Et on a une liste sur laquelle on les inscrit. Et du coup, on a aussi des propositions de formation. Et donc, souvent, c'est des outils qui nous permettent de s'intégrer, de connaître la France et de mieux s'adapter et pour mieux entamer les procédures par rapport au travail. Et le travail qu'on fait de l'autre côté, souvent, c'est des travaux manuels. Mais quand on vient ici, voilà, c'est des travaux qui sont industriels et tout, avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de machines.
Voilà pour cet extrait des membres de A4 Grenoble. Si vous voulez écouter cette table ronde qui est un peu longue mais très intéressante sur le site de Radio Saint-Ferréol sur les rencontres décoloniales rurales pour écouter la suite, je vous invite à aller voir sur ce site. Est-ce que vous avez des réactions et notamment sur la question du milieu rural qui est quand même notre réalité ici dans le Royan mais qui est un peu aussi la même chose du côté de Diolfi, de Vinay, enfin de terreaux locaux aussi, sur la question agricole. Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques dans nos milieux ruraux qui peuvent permettre peut-être des leviers qu'il n'y a pas en ville?
Oui. Je crois qu'il y a un élément qui est important dans ce qui s'est dit, c'est les compétences. Mmh. On pense que les gens n'ont pas de compétences, qu'ils viennent pour profiter du système. Mais en fait, les gens qu'on a, nous, c'est que dans les familles qu'on a accueillies, il y avait des gens archi compétents, super compétents, mais qui avaient un mal fou à faire reconnaître leurs compétences, soit que le diplôme n'est pas accepté en France, soit parce que on prend pas le temps au niveau de France Travail de regarder si elles ont des compétences concrètes, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est important parce que il faut aussi déconstruire toute cette image du migrant qui vient d'un arrière-pays agricole et où il crève de faim et qui arrive en France et qui est prêt à travailler dans n'importe quoi. Bon. Ouais. Après, au niveau agricole, ici, on est dans un pays agricole, mais c'est quand même très spécialisé. Il y a peu de demandes de main-d'œuvre, contrairement peut-être à la vallée du Rhône, où il y a des besoins assez récurrents de main-d'œuvre pour recueillir les fruits, par exemple, mais où le système est organisé depuis très longtemps. Donc, il faut arriver plutôt à rentrer dans le système qu'à créer. Mais dans un pays comme ici, où il y a Mouavinet, les noix, mais il n'y a pas besoin tellement, sauf la semaine où on récolte les noix. Mais maintenant, avec les machines à récolter les noix, on a de moins en moins besoin de personnes. Donc, c'est tous des petits boulots comme ça qui disparaissent, quoi.
Merci, Pierre. Chloé, je te voyais réagir.
Non, c'est juste que nous, à Diolfi, en fait, enfin, sur la ville de Diolfi, c'est marrant parce qu'on a toujours une image assez agricole parce qu'on est en milieu de campagne rurale. Il y a très, très peu d'exploitations agricoles sur Diolfi. Je crois qu'il y en a 3 ou 2. C'est minuscule du point de vue agricole. Après, sur les territoires autour, bien sûr. Nous, avec les personnes qu'on a accompagnées vers le travail, c'est pas vers l'agricole qu'elles sont allées. Moi, je vois quand même, et j'aurais pas parlé comme ça il y a 5 ans ou il y a 6 ans, je vois quand même vraiment l'enjeu de la langue avant même la compétence. Et c'est, voilà, on se rend compte quand même que c'est quand même galère quand on parle pas la langue du pays où on vit, surtout pour trouver du travail. Et même quand on a une pratique du français, mais qui est un peu plus aléatoire que quelqu'un qui est francophone, ben, pour un entretien d'embauche ou même pour une rencontre avec un patron, ben, de suite, les gens, ils s'inquiètent, ils se disent, ah, mais est-ce qu'il va comprendre les consignes? Et puis, c'est aussi que quels sont les boulots aujourd'hui où il faut pas, même savoir lire le mode d'emploi d'une machine, les conditions de sécurité dans une usine, enfin, c'est quand même très, très présent. Donc, après, c'est là où nous, on essaye effectivement d'amener les cours, de faire progresser les gens aussi par la sociabilisation, hein, pas seulement par les cours. Et c'est aussi là où nous, en tant qu'asso, on est une interface, c'est-à-dire on met de l'huile dans les rouages aussi, dans la relation avec le patron, avec l'entreprise. Ça, c'est, ils peuvent nous appeler, il y a un souci, n'hésitez pas, appelez-nous et on se fait une réunion à trois. Enfin, voilà. Ça, je pense que c'est tout ce qu'on fait, en fait. Cette espèce d'ancrage territorial et relationnel, il est absolument essentiel dans une mise en confiance sur embaucher une personne venue d'ailleurs, quoi.
Attends, juste Pierre, il y a Dorine qui voulait prendre la parole, pardon.
Non, c'était vraiment pour abonder les propos. À Terroloco, les activités de maraîchage et de boulangerie sont vraiment un support, en fait. La plupart des salariés n'ont pas forcément d'appétence à la base ou de compétences dans le milieu agricole, ni biologique, etc. Mais par contre, ce sont des activités qui laissent le temps à l'apprentissage également. C'est un travail en équipe. Le fait de participer au marché également, enfin il y a beaucoup de contacts en fait humains, les activités aussi de production, c'est enfin artisanal, c'est assez valorisant aussi parce que finalement on travaille toute la journée, à la fin de la journée on a notre pain qui est produit et qu'on vend, etc. Donc ça a un impact aussi sur la confiance en soi qui est pas négligeable également.
Hélène, tu voulais compléter?
Ouais. Je voulais juste rajouter quelque chose. Ceux qui verront le film après le comprendront. Les porteuses de projets, quand elles sont arrivées, elles voulaient absolument se poser en milieu rural en se disant que toutes les offres d'insertion pour les réfugiés étaient majoritairement en ville et que effectivement, on a quand même une majorité, j'allais dire, de personnes qui arrivent d'Afrique aussi. Ils avaient pu tester des petites compétences, même à un niveau familial, et que ça serait ça serait plus facile d'entrer dans un premier travail. C'était un choix de s'installer en milieu rural, vraiment.
Et j'avais envie qu'on aille aussi vers la question du logement, puisque donc par exemple la passerelle, pour vous c'est important que, enfin c'est pour ça que vous avez monté aussi cette maison. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment vous avez travaillé cette question-là, qui est à la fois les cours de français, la question du travail et la question surtout du logement?
Bah c'est sûr que quand on regarde même quand on a une vision un peu lointaine de la question migratoire en France et en Europe, globalement, on pense un campement de personnes migrantes, quoi. Enfin, clairement, c'est quand même, notamment en France, notre énorme problème. C'est le non-accueil qui fait que des gens vivent dans des tentes et sur des trottoirs, du fait du manque de place dans les centres d'accueil, notamment pour demandeurs d'asile. Après, ce projet, il est né notamment de l'expérience de bénévolat au refuge de Briançon, qui est quand même un endroit à la frontière entre l'Italie et la France où on accueille des personnes qui viennent de traverser les Alpes, qui arrivent d'Italie et avant ça qui arrivent de la Méditerranée, et on les voit et on fait un entretien avec elles dans le bureau d'accueil et ils partent à Limoges, à Rennes, à Paris, ils ont des destinations, ils ont des contacts, ils vont les rejoindre et nous intérieurement on se dit ok, d'accord, dans 3 semaines il sera dans une ville parisienne, dans une ville française, très certainement non hébergée. Surtout quand ce sont des hommes seuls. Malheureusement, maintenant, c'est même les familles qui sont pas hébergées, même les femmes enceintes jusqu'à 7 mois. Donc voilà. Et donc c'est quand même, enfin, même d'un point de vue hors question migratoire, avoir un toit sur la tête, c'est quand même un peu le début de tout. Les gens qui font de l'insertion le savent bien. Le toit d'abord, pour pouvoir ensuite commencer à poser des démarches, peut-être trouver un travail, etc. Donc nous, effectivement, c'est un peu la porte d'entrée dans cet ensemble de choses de l'accompagnement social. Donc l'enjeu, ça a été dès le départ, l'idée était d'ouvrir une maison, mais après c'est le comment, quoi. Au départ, l'idée n'était pas forcément de devenir propriétaire. Hein. L'idée de la coopérative immobilière, elle est venue parce qu'on a trouvé une maison, on a vu une annonce d'une maison qu'on a visitée très rapidement et dont on s'est dit il faut absolument qu'on chope cette maison parce qu'elle correspondait tout à fait au projet social qu'on avait écrit pendant pratiquement 3 ans.
au ras des pâquerettes. L'émission qui prend de la hauteur.
Le rendez-vous mensuel d'Aura FM, la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Si vous êtes curieuse et curieux de découvrir d'autres territoires, rendez-vous sur aurafm.org.